France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Victor Matet.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux informés sur France Info, à la radio et à la télé, canal 27 de la TNT. La mémoire en question ce soir avec les débuts des commémorations des 80 ans de la libération. Emmanuel Macron était aujourd'hui sur le plateau des Glières, puis à la maison d'Izieux où 44 enfants furent arrêtés et déportés, notamment à Auschwitz-Birkenau. Autre génocide, celui bien sûr au Rwanda il y a 30 ans, au-delà du travail de mémoire, celui de la réconciliation et de la responsabilité, notamment celle de la France. Nous y reviendrons largement. Et puis cela fait 6 mois aujourd'hui que le Hamas a attaqué Israël. La guerre dure depuis et ne semble pas prête de s'arrêter. Nous analyserons ces mois de conflit et toutes les dernières infos, bien sûr, qui le concernent. Pour en parler, Jean-Christophe Ploquin est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef de La Croix, Valérie Lecable à vos côtés. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Victor.
Éditorialiste politique pour le site lejournal.info. Tam Tranui, bonsoir.
Bonsoir.
Et journaliste politique et parlementaire à Public Sénat. Et puis avec nous également Guillaume Ancel. Bonsoir Guillaume Ancel.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation, ancien officier français, chroniqueur et auteur du blog Ne pas subir. Vous avez été sur le terrain à l'époque au Rwanda et avez depuis longtemps milité pour que le rôle de la France soit reconnu, notamment avec votre livre Rwanda, la fin du silence. Ce sera tout à l'heure notre deuxième sujet. C'est parti pour une heure de débat. C'est donc un long cycle mémoriel qui a débuté ce dimanche pour Emmanuel Macron autour du 80e anniversaire de la Libération. Il y aura bien sûr le débarquement en Normandie le 6 juin prochain, mais ce dimanche, le chef de l'État s'est rendu sur le plateau des Glières dans les Alpes au lieu de la Résistance, puis à la maison d'Izieux dans le département de l'Ain, là où 44 enfants juifs y furent raflés le 6 avril 44 par la Gestapo sur l'ordre de Klaus Barbie, puis déportés et assassinés dans les camps. Je vous propose d'écouter le président de la République ce matin au plateau des Glières.
Unis dans le même combat face au nazisme, combat pour la liberté, combat universel qui est devenu celui de la France. Voilà cet esprit des Glières, celui qui nous rassemble aujourd'hui, comme il nous rassemblait il y a 5 ans au même endroit, et comme il vous rassemble chaque année ici. Nous qui n'oublions pas et serrons au creux de notre main cet idéal.
Voilà le ton très solennel d'Emmanuel Macron. Cette journée de commémoration, comme tant d'autres avant elle et celles qui suivront, elle est importante. Jean-Christophe Ploquin, pour quelle raison à vos yeux? Pour le souvenir, comme symbole d'unité aussi de la nation?
Oui, alors c'est intéressant que le président de la République commence cette séquence mémorielle avec un maquis. Et c'est vrai que quand on pense en général en 1944, on a tous en tête débarquement de Normandie, on a l'impression que finalement la libération de la France, ça, c'est de ce fait de cette méga offensive alliée en Normandie. Et ce que veut rappeler aujourd'hui Emmanuel Macron, c'est qu'il y avait aussi cette, et je, tout au long de cette séquence mémorielle qui ira, je crois, jusqu'à la libération de Strasbourg en novembre.
Même en 2025, avec d'autres événements.
C'est ça. Et donc, il y a vraiment le souhait de montrer la diversité des situations françaises, l'action, effectivement, des résistants, dans leur diversité, comme on vient de l'entendre dans le passage, puisqu'il a bien rappelé, il y avait des communistes, mais il y avait aussi des représentants du courant démocrate chrétien, il y avait des étrangers, il y avait des Français. Et donc cette diversité qui était la réalité des maquis. Et en même temps, il a souligné aussi, dans son intervention, qui était finalement assez brève, hein, je crois une dizaine de minutes, qu'il y avait aussi des Français contre des Français. Et que parmi les troupes qui ont attaqué le plateau des Glières, c'était majoritairement des Allemands, mais il y avait aussi la milice française qui était présente. Et donc, sans doute que le président de la République a en tête cette idée de montrer qu'il faut en fait que les Français s'unissent. Il ne faut pas avoir créé des oppositions qui puissent déboucher sur des fractures extrêmement vives dans la nation. Donc il y a à la fois, je crois que les Français aiment l'histoire, et Emmanuel Macron le sait, et donc toute cette séquence mémorielle, c'était une façon aussi pour les Français de se réapproprier cette histoire. Mais il y a évidemment un message politique aussi derrière.
On va revenir
un souhait d'unité en
quelque
sorte. On
va revenir dessus. Votre regard sur cette journée, Valérie Lecable?
Bah écoutez, Emmanuel Macron adore le mémorial. C'est la deuxième fois qu'il se rendait au plateau Guédéguier.
Après 2019 avec Nicolas Sarkozy.
Il y avait déjà été il y a 5 ans. Et on voit bien que ça s'inscrit dans ce qu'on appelle une séquence, hein, dans le langage des politiques et de la communication, etc. Ça a commencé en 2023, comme vous l'avez rappelé, l'entrée de Misak Manouchian, pardon, excusez-moi, au Panthéon, Jean Moulin, la résistance, etc. Tout ça, ça a commencé l'année dernière. Là, c'est l'année de la renaissance de notre nation, de notre pays, effectivement, avec les Français qui sont opposés. Il en profite pour... moi, j'ai compris que dans ce qu'il donnait des miliciens. Les miliciens, est-ce que c'était d'une certaine façon le Rassemblement national d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y avait pas une sorte d'analogie, puisque tout ça va se terminer à 3 jours des élections européennes, avec le combat interne de la démocratie que lui, Emmanuel Macron, représente face au Rassemblement national et à ces nazis qu'il a évoqués, sans faire le lien évidemment, mais on sent bien qu'il y a ça. Il y a aussi la guerre en Ukraine et la guerre contre la Russie. Et puis ça va se poursuivre l'année prochaine par l'année de l'armistice. Mmh. Donc on voit bien qu'il est dans le récit d'une France héroïque, d'une France de héros multiples, effectivement, d'une France de résistance, et qu'il prétend incarner aujourd'hui dans sa modernité face à tous ceux qui les assaillent, que ce soit les ennemis extérieurs représentés par la Russie ou les ennemis de l'intérieur représentés par le Rassemblement national. Donc il ne fait pas de campagne politique européenne directement, mais de façon subliminale carrément.
20h, 21h, les informés. Victor Mattey.
Et on continue d'évoquer ces hommages aujourd'hui, ces commémorations, hommages aux résistants sur le plateau d'Aiglière et puis à la maison d'Izieux. Effectivement, cet enfant déporté notamment à Auschwitz. Votre regard de militaire, d'ancien officier, Guillaume Ancel, sur cette journée.
C'est d'abord un passage à l'histoire. Parce que la dernière génération qui a connu la Deuxième Guerre mondiale, c'est celle des années 1920. Et donc, évidemment, s'éteint. Et donc... là, le fait que le président l'évoque, c'est important, mais on sent bien qu'on bascule dans le fait que bientôt, il n'y aura plus aucun témoin de cette période. C'est une histoire sans controverse aussi qu'il évoque. Et je pense que ça l'arrange parce qu'il a besoin, quelque part, d'exalter aussi la résistance face à l'extrême droite, dont on voit bien qu'elle a un impact extrêmement grave, et notamment sur la guerre en Ukraine, qu'on a évoquée tout à l'heure. Finalement, on croyait s'être débarrassé de cet extrémisme, et il est encore très présent dans nos sociétés, avec des liens qu'on n'avait jamais imaginés. On n'avait jamais imaginé que la Russie allait devenir le porteur d'un idéal radical et d'extrême droite aujourd'hui. Donc c'est intéressant, et en même temps un peu décevant.
Pourquoi décevant ?
J'imaginais qu'il serait plutôt aujourd'hui le président, sachant que la rafle d'enfants, c'était plutôt le 6 avril et le 7 avril. Pour moi, c'est d'abord la date aujourd'hui de la commémoration du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Et je pensais que le président allait plutôt être là, parce qu'il aurait pu faire ses commémorations sur la résistance, qui est un moment très important, mais à d'autres dates. Donc on voit qu'il y a eu un choix de sa part, je pense qu'on en reparlera.
Ce n'est pas anodin, hein, Tam Trahnui, que Emmanuel Macron ne soit pas rendu au Rwanda, justement, mais soit resté en France pour ces commémorations-là.
Je pense
on parlait de politique.
C'est une mémoire qui nous unit, c'est une mémoire effectivement qui est encore relativement consensuelle et qui reflète effectivement le goût d'Emmanuel Macron pour l'histoire, pour l'appétit mémoriel, commémorationnel qu'on a retrouvé.
C'est devenu un spécialiste en quelque sorte de ces commémorations.
On a vu qu'il y a eu 28 déjà. Hommages nationaux,
28, c'est,
c'est ce que compte le Monde depuis 2017. Et moi ça m'évoque aussi ce qui s'était passé lorsqu'il avait fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur la Première Guerre mondiale, les commémorations de novembre 2018 sur le chemin des dames.
Les itinérances mémorielles à l'époque.
Voilà, itinérances mémorielles en hommage aux poilus. Et où il y avait eu aussi la tentation de faire à la fois ça et en même temps d'aller dans des zones désindustrialisées. Il y avait la volonté de rappeler voilà, une certaine mémoire de la France comme pour y répondre à des questions du présent. Et j'avais trouvé que ça avait pas très bien fonctionné, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, mais il y avait eu en parallèle la montée des gilets jaunes. Et donc, je pense que l'une des difficultés dans les actes que fait Emmanuel Macron d'histoire, c'est qu'il faut qu'il soit en cohérence avec le présent. Et par exemple, ce qu'il y a eu aussi avec l'entrée au Panthéon de Misak Manouchian, c'est que c'est rentré en même temps que le débat sur le projet de loi immigration. Ça tirait des deux côtés, c'était en même temps qu'il...
Là, il peut le décorréler de l'actualité facilement, plus facilement.
Eh bien, là, je le pense quand même que c'est moins difficile, mais je dis quand même qu'il faut faire attention et pour que ce soit réellement audible, il faut que tout aille dans le même sens. On est dans un moment, bon là, on le voit, de grandes
désunions. Parce que ça lui permet aussi quelque part de faire une pause dans l'actualité chaude, on va dire, bah, en faisant un moment un peu suspendu.
Oui, voilà. Au moins, c'est pas un moment où on va lui parler de la réforme de l'assurance chômage, si c'est ça que vous voulez parler. C'est sûr.
Ça, Gabriel Attal.
Voilà. On va laisser ces dossiers-là effectivement au Premier ministre et lui se mettre à un autre niveau,
prendre
de la hauteur.
Prendre un peu de hauteur.
C'est ça qu'il souhaite dans cette séquence.
Emmanuel Macron qui a terminé son discours au plateau des Glières, je le cite par ces mots, « Vivre libre ou mourir, telle est notre viatique pour hier, aujourd'hui et demain, pour que vive la République et que vive la France ». Jean-Christophe Ploquin, très difficile de ne pas voir une allusion à ce qui se passe aujourd'hui aux portes de l'Europe en Ukraine.
Oui, c'est ça. Il y a clairement un message, comme disait Guillaume Ancel, lié au conflit ukrainien. Et bon, on voit que Emmanuel Macron, aujourd'hui, veut apparaître comme l'un des plus fervents soutiens à l'Ukraine et l'un des leaders, en quelque sorte, européens du soutien à l'Ukraine. Donc, ça s'inscrit aussi dans ce cadre. Ce que je voulais juste noter aussi, c'est que la mémoire des maquis sont des mémoires qui sont très enracinées localement. Et même si il y avait quand même une centaine d'enfants et de jeunes qui étaient réunis au plateau des Glières, et je pense que ce sont des événements, finalement, la venue d'un président de la République aussi, c'est très important par rapport aux populations locales qui portent ces mémoires. Et donc là aussi, c'est de la politique.
On a vu d'ailleurs serrer beaucoup de mains, voilà. Une sorte de bain de foule.
Et là aussi, c'est de la politique. Et finalement, de ce point de vue-là, ça a été plutôt une journée plutôt positive pour lui en termes d'image et de contact avec la population.
Avec cette question, Valérie Lecâble, on l'a dit aussi, de la transmission aux futures générations, bien sûr.
Oui, tout à fait, puisqu'il a demandé aussi à la population de collecter les films, de donner les photos, les images. Il a parlé du sommet de la francophonie, de Notre-Dame, etc. Et tout ça donne une espèce de France qui reprend fierté. Il a beaucoup parlé de fierté. Il a dit « Nous sommes fiers de nos valeurs, fiers de notre histoire, aux côtés de nos alliés, etc. » Et ça me fait quand même penser que depuis 2017, son plus ancien conseiller, quasiment un des rares qui est là depuis le début, s'appelle Bruno Roger Petit, son discours mémoire et histoire, etc. Et qu'il a, il a pensé tout ça depuis le début avec Jupiter, avec cette espèce de monarque subliminal qu'on doit avoir en France au-dessus, après le président normal qui était François Hollande, avoir un président, au contraire, qui soit au-dessus de la mêlée et qui montre la voie. Et aujourd'hui, j'ai trouvé c'était plutôt réussi dans cette veine-là. Effectivement, il n'y a pas eu de gilets jaunes, il n'y a pas eu de perturbation, il n'y a pas eu de loi sur l'immigration, il n'y a rien eu de particulier. Et ça redonne un petit peu de vision de la France, voilà. Et de temps en temps, je trouve que ça fait pas de mal. Il y a effectivement un appel au peuple autour de ça. J'ai trouvé ça légèrement inquiétant quand il a parlé. Ça faisait un peu penser aux troupes, là, quand il a dit « nos enfants peuvent se mobiliser », etc. J'ai trouvé ça un petit peu inquiétant. On n'était pas dans une mobilisation où on allait chercher les gens et tout, mais on était dans un état d'esprit quand même qui pouvait laisser penser qu'un jour, les jeunes d'aujourd'hui se trouveraient dans la même situation que les jeunes d'hier. Et bien évidemment, je pense que personne en France ne souhaite cette situation-là.
Tam Trinui, on a à la fois un président qui prend de la hauteur, mais qui n'hésite pas aussi à être, on va dire, au plus proche, en tout cas rentrer dans les dossiers, à s'impliquer directement.
Vous trouvez ?
Bah, un peu, non ?
Oui, non, mais c'est vrai qu'on l'a vu, par exemple,
écoles, sur
l'éducation nationale,
même,
voilà. Qui se sent obligé de dire vendredi des choses qui auraient dû être dans la bouche de sa ministre de l'éducation nationale sur la formation des enseignants. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, il y a quand même un fil, on parle beaucoup de l'influence de Bruno Roger Petit, qui serait très très forte en ce moment, etc., ce conseiller mémoire, dont l'influence va bien au-delà de ces missions-là. Et beaucoup ont vu son marqueur. Et le lien, c'est que sur les questions d'éducation nationale, sur tout ce qu'a pu dire Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse de janvier sur le retour de l'uniforme, etc. Ça aussi, beaucoup y voient le marqueur de Bruno Roger Petit. Donc finalement, il y a peut-être un lien entre tout ça. Le lien aussi, quand on s'adresse à ces jeunes générations, c'est quand même de ne pas oublier. C'est quand même une mission absolument essentielle. Aujourd'hui, quand on voit que la mémoire de la Shoah, c'est quelque chose qui est plus difficile à enseigner aujourd'hui dans les écoles, moins bien entendu, moins bien compris. C'est quand même toujours important qu'un président de la République régulièrement fasse j'allais dire, des piqûres de rappel. Enfin, c'est absolument essentiel.